Bonjour.
Est-ce que c'est pour vous?
Ouais, celui-là c'est pour moi.
Vous appelez comment?
Benjamin. Ben.
Ah oui, il y a Benjamin des Benjamin ici.
On dirait.
Ouais, ouais. Et vous faites quoi?
Je suis étudiant à Tours ici même.
D'accord, en quel
niveau? En langues étrangères appliquées, je fais des langues.
Ouais.
Et quelle langue en fait?
Anglais et espagnol. J'ai abandonné le russe.
Ah bon?
Trop dur. Trop dur. J'en ai fait au lycée, j'arrête.
En fait, il suffit d'aller en Ukraine une fois et de voir comme les filles sont belles.
Et en fait,
on se met. Ah oui, on se met à refaire de rouge. Ah non, vous dites non.
Si je vais en Ukraine, elle viendra avec moi. Mais...
Ah ouais, donc.
Je peux pas.
Alors, allez en Albanie.
Parle russe, ça va. Je...
Et vous avez lu le 1 ou...
Non, justement, en fait, je viens de découvrir qu'il y avait. Je connaissais pas du tout Silex and the City. J'avais lu juste José Bové et
ouais.
La croisade Samus. D'ailleurs, José Bové, il est vraiment super, je tenais à vous dire, parce qu'il est vraiment marrant.
Bah, et il a survécu, hein, finalement.
Ouais, puis apparemment, il a été super bien critiqué et tout, donc tant mieux.
Qui êtes-vous, Jules?
J'ai une personnalité fragmentée, parce que en fait, je suis dessinateur. Mais je suis dessinateur pour différents supports. Je viens quand même du dessin de presse. Donc je travaille à Charlie Hebdo, je travaille à Lire, à Philosophie Magazine, aux Échos, à Luma, dans pas mal de journaux, et ce depuis assez longtemps. Et finalement, je suis aussi dessinateur de bande dessinée depuis 2005. C'est le moment où j'avais sorti Il faut tuer José Bové, qui était mon premier album. Et maintenant, évidemment, ça prend une grande part de mon activité. Et Silex and the City, qui est une série, évidemment... probablement va m'orienter encore plus en direction de la bande dessinée. Puis je fais aussi des dessins en direct, par exemple j'ai une émission de télévision le jeudi soir où il y a des écrivains qui sont invités sur un plateau et puis je fais des dessins en direct. Donc c'est encore une autre branche. Donc je suis un peu dessinateur multicarte et avant je faisais des choses très différentes. Je venais des études en histoire chinoise que j'ai enseignées. Donc voilà, c'était une autre vie. Donc maintenant je suis quelqu'un de tout à fait défroqué. Une des conclusions qu'on peut tirer quand on s'intéresse à la préhistoire, pas forcément même sous l'angle de la parodie comme je le fais, mais de façon globale, c'est qu'il y a quand même des grandes, grandes constantes de l'humanité qui ne changent pas forcément. Et c'est vrai qu'au fond, d'écrire une préhistoire, un paléolithique qui reflète énormément de choses de notre société actuelle, c'est une façon de parler de notre société, mais c'est aussi une façon de parler de la préhistoire. C'est-à-dire qu'il y a un système de navettes. Donc il y a des choses issues des découvertes archéologiques qu'on découvre et qui, moi, me donnent des idées de gags et qui me font interpréter un certain nombre de choses d'aujourd'hui différemment. Et inversement, quand on... Par exemple, probablement dans un tome 3, je m'emparerai de la question des Roms, dont on a beaucoup parlé, mais j'avais déjà bouclé l'album au moment où c'est venu sur le devant de la scène. C'est amusant de s'imaginer qu'au Paléolithique, tout le monde était Rome, en fait, hein, parce qu'on n'avait pas inventé l'agriculture, il y avait que des chasseurs-cueilleurs qui étaient complètement nomades et pas du tout sédentaires. Et puis il n'y avait pas de poules, donc il n'y avait pas de voleurs de poules. Donc finalement, c'était une espèce de paradis terrestre. Donc mettre en perspective voilà, des choses qui sont des passions du moment et puis des turpitudes éternelles, ça c'est, je pense, assez rigolo et ça donne peut-être une profondeur au propos d'une certaine façon. J'étais abonné au journal du Spirou pendant de longues années et j'attendais à chaque fois impatiemment la sortie du journal. Mais mon travail est énormément nourri de l'audiovisuel en fait. Donc évidemment, je pense aux Simpsons, mais je pense aussi aux comédies américaines, les Marx Brothers, les Monty Python, qui ont fait aussi des choses en costume justement à travers différentes époques. Et il y avait un dessin animé qui s'appelait Il était une fois l'homme, qu'on regardait à l'époque où je lisais Spirou, il y avait ça. Et c'était effectivement une famille avec des grands stéréotypes, le méchant, le gentil, le grand-père, les enfants. Qui évoluait d'une époque à l'autre. Alors pourquoi pas, ça pourrait être justement une espèce de développement de Silex and the City. Alors Silex and the City, autant de la Bible, autant d'Homère, jusqu'au traité de Maastricht. Donc si jamais je commence à être un petit peu sec du côté de la préhistoire et que je me mets à racler vraiment les fonds de tiroir au Silex, et ben je les ferai évoluer dans le temps. C'est une possibilité que je me laisse ouverte. On se refait pas vraiment, c'est-à-dire que c'est vrai que moi, ce dont j'aime parler, c'est des temps anciens, j'adore faire des sagas en costume, mais c'est aussi évidemment du monde qui m'entoure. Aussi bien des choses dont je suis familier, le monde de l'éducation, parce que les deux parents de Silex and the City sont deux profs en zone d'évolution prioritaire, profs de préhistoire géo, profs de chasse. Et c'est des gens qui ressemblent à des personnages que je connais. Mais par exemple, moi, je suis pas du tout spécialiste de foot. Bon, et dans ce tome 2, je parle quand même beaucoup de football. Il y a les matchs PSG-OM, c'est Primates Saint-Germain contre Olympique Mammouth, avec les grands sélectionneurs Raymond Darwin, hein, qui prône la sélection naturelle, évidemment, puis ça fait perdre son équipe, toujours. Bon. Donc ça me permet de balayer large, et ça, c'est plutôt rigolo. Silex and the City, c'est un petit peu particulier, parce que, justement, j'ai pas voulu m'ancrer trop dans le côté contemporain, un petit peu éphémère du dessin de presse. Donc, j'espère que dans 10 ans ou dans 15 ans, la plupart, même s'il y a beaucoup de références, la plupart des choses qui sont évoquées dans l'album resteront compréhensibles. C'est quand même des grandes tendances lourdes de l'actualité. Probablement les religions, les extrémismes, les communautés, la violence scolaire, le sport, tout ça, ça sera encore pareil dans 10 ans ou dans 20 ans. En fait, on mourra avec ces problèmes, nous tous. Alors donc, les hommes politiques, oui. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont des lecteurs, hein, déjà. Puis de façon générale, quand on est dessinateur de presse, on se rend compte qu'il en faut, il faut vraiment en faire énormément pour avoir des problèmes, des procès, des choses comme ça. Et qu'il est presque obligatoire pour un homme politique de trouver génial pour leur chier sur la gueule en dessin. Évidemment, c'est ce qu'on expérimente avec les guignols, parce que les guignols sont finalement assez violents et intransigeants avec pas mal de gens. Ils sont vraiment, ils les tournent en ridicule de la manière la plus comique. Et tout le monde dit, les guignols, c'est génial, j'adore avoir ma marionnette aux guignols, même si c'est humiliant pour eux. Ils sont obligés, d'une certaine façon, ils sont coincés. Donc, et puis de temps en temps, il y a 2-3 moments où on franchit les bornes et puis il y a des procès. Mais moi, j'ai jamais eu de procès d'homme politique. Donc voilà, ça veut dire que je suis peut-être pas assez bon. Hein. Il m'énerve beaucoup, ou alors je les trouve très souvent grotesques, ce qui effectivement est un grand moteur pour le dessin de presse. Plus on est énervé, finalement, plus on fait des choses rigolotes. C'est une façon de venger aussi soi-même et le lecteur. Et moi, je le ressens de la même façon dans mes bandes dessinées et dans mon dessin de presse. Il y a un peu toujours cette optique-là, quoi. Finalement, toutes les choses très oppressantes de la société de masse, de la culture de masse, de l'injonction à consommer, des espèces de terreurs perpétuelles qui est entretenue dans la population à propos de tout et de rien. Finalement, le rire, la parodie, c'est l'espèce d'aperçu grinçant. Je trouve que ça soulage. Donc merci Brice Hortefeux. Si tu nous écoutes, Brice, merci. En fait, quand je travaille sur l'actualité, je prends des notes, j'ai les journaux, je regarde la télé, il y a des idées qui me viennent en fait, en griffonnant, des associations. Donc voilà, ça c'est vraiment la façon que j'ai de travailler, qui est sur la surface très souvent des choses, et tout de temps en temps, plouf, on plonge et on fait une espèce de forage. Dans une expression, dans une façon de parler, dans une situation. Bon, voilà. Et de temps en temps, il y a des dessins que je fais où je me dis, mais ça marcherait bien à la préhistoire, ça aussi. C'est-à-dire que mon travail de dessinateur de presse nourrit un petit peu quand même, malgré tout, mon travail de dessinateur de bande dessinée. L'inverse n'étant pas tout à fait vrai, parce que pour le coup, quand je travaille sur une BD, c'est vraiment en long cours, je m'enferme. Et au contraire, de temps en temps, justement, je n'arrive plus à switcher sur le mode très éphémère et très direct du dessin de presse. Donc c'est pour ça qu'au moment où je fais vraiment un scénario de BD, j'essaie de limiter au maximum les collaborations en presse pour mieux les reprendre après. Moi, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours été un grand lecteur de bandes dessinées. D'abord, les bandes dessinées pour les enfants. Puis, petit à petit, j'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert Gottlieb par un prof qui était super, qui m'a dit en CE2 qu'il fallait que je lise Gottlieb parce qu'il voyait ce que je faisais. Il me dit « ça te plaira sûrement ». J'ai lu Reiser, j'ai lu ensuite de grands humoristes américains que j'adore, comme Gary Larson, par exemple, qui fait The Far Side aux États-Unis. Ça m'a nourri. Quand j'ai commencé à faire du dessin de presse, c'était parce que moi, j'avais en plus toujours une tournure un peu d'esprit satirique, un peu critique. Je faisais déjà des petits journaux à l'école que je photocopiais, que je vendais à mes copains. Et puis ensuite, sans doute, il y a eu un vrai déclic. Alors que j'étais dessinateur de presse, qui m'a fait basculer du côté de la BD, c'est Pétillon. Parce que Pétillon, au moment où il a fait L'Enquête Corse, qui est une des aventures de Jack Palmer, son personnage récurrent, là, pour le coup, il avait marié tout à fait son travail de dessinateur de presse pour une longue histoire, une vraie narration de BD, et ça fonctionnait merveilleusement bien. Donc pour moi, c'est resté une balise et un vrai signe de départ vers ce monde de la BD. nous, on travaille sur, pour l'instant, le développement de cette série. Il y a des productrices qui ont acheté les droits. C'est pas encore programmé sur une chaîne, on sait pas encore le format que ça va prendre, mais c'est vrai qu'on a déjà commencé à réfléchir aux équipes de scénaristes qui pouvaient travailler aussi dessus, parce qu'une série avec plein d'épisodes, c'est pas quelque chose qu'une seule personne peut faire. Donc il y aura de l'adaptation par rapport à la BD, puis il y aura de la création pure pour la série, et on passera dans un univers où il y aura de la musique, il y aura un rythme tout à fait différent, même si l'esprit sera probablement le même. Donc c'est quelque chose de marrant, en même temps c'est un petit peu du bluff, hein. J'ai l'impression que je vais pouvoir le faire, ça se trouve je vais m'écraser contre un mur, mais en même temps voilà, ce travail là est amusant à imaginer, on verra ce que ça donnera, et c'est sûr que quand j'aurai vraiment la tête dedans, j'aurai un peu moins de temps pour faire les choses. Moi j'ai un copain qui s'appelle Riyad Satouf avec qui je travaille à Charlie Hebdo, qui a fait un film l'année dernière, ça lui a pris beaucoup de temps, on le voyait plus jamais, et je pense qu'il s'est quand même bien amusé en faisant le film, même si c'est probablement stressant, et que le côté collectif justement de ce genre d'aventure tranche complètement par rapport au côté très solitaire de la bande dessinée et du dessin. On va voir, moi, si ça me tape pas sur les nerfs au bout d'un moment, mais il sera toujours temps d'arrêter et de planter tout le monde, hein. Moi, j'ai un recueil de dessins de presse qui va sortir probablement en février prochain, qui va s'appeler « Roms, Juifs, Arabes et autres plombiers polonais ». Et puis ensuite, prochain album avant le tome 3 de Silex and the City, ça sera probablement un recueil de dessins en rapport avec la philosophie. Parce que j'ai une page de bande dessinée dans Philosophie Magazine chaque mois, depuis 4 ans maintenant. Donc on va faire un recueil, on va mettre des inédits, donc ce sera voilà, le monde de Sophie façon Jules. Je pense qu'il ne faut pas rencontrer les auteurs qu'on admire. On est toujours déçu par la dimension humaine. Donc je pense qu'il ne faut jamais rentrer dans le crâne de quelqu'un, il faut se contenter toujours de ses œuvres. Merci beaucoup et rendez-vous dans 40 millions d'années. Ouais.